Vous êtes bien sûr radio là. La radio qui est toujours
là.
Perrault, bonjour.
Bonjour Lionel.
Alors, bienvenue dans cette revue littéraire.
Oui.
Aujourd'hui, tu as choisi de nous parler du roman de Roger Vaillant.
Oui.
La loi.
Oui.
Qui a été publié en 1957.
Oui.
Et qui a eu le prix Goncourt.
1957.
Voilà. Alors, pour information, le prix Goncourt, ça existe depuis à peu près
1901.
D'accord. Donc, je te laisse la parole pour nous parler de ce roman que tu as choisi.
Voilà. Alors, le roman que j'ai choisi...
Aux éditions
Gallimard.
Ouais.
Voilà.
Combien de pages ?
La Blanche Gallimard, on appelle la Blanche, la collection Blanche Gallimard.
Pourquoi donc ?
Parce que les bouquins sont blancs.
D'accord. Et il y a combien de pages ce roman ?
313.
313, d'accord. Merci. Alors, vas-y.
Je te présente le roman. Roman. Donc, le roman se déroule dans un petit village dans les Pouilles en Italie, dans un petit port qui s'appelle Porto Manacore. Et il évoque les tensions qui existent entre les différentes classes sociales qui habitent ce petit village. Et les rapports sont quasiment un rapport de caste. Et ces rapports antagonistes sont exacerbés dans un jeu qui se pratique beaucoup dans les tavernes de la ville et que l'on désigne par le nom du jeu de la loi. Et ce jeu consiste à humilier, voire à déshonorer l'adversaire qui doit tout entendre en essayant de rester indifférent. Et ce jeu s'accompagne de beaucoup de libations. Et dans cette société très, entre parenthèses, arriérée, le déshonneur suprême est d'être sous la loi de la femme. Trois héroïnes principales de ce roman, au destin très différent, parviennent à briser ce carcan de domination du mal. Il s'agit de Giuseppina, la fille du quincaillier, de Mariette, l'une des filles de la femme de Don Cesare, un des héros de cette épopée, et Lucrezia, la femme du juge. Ce roman a trois personnages principaux qui sont Don Cesare, le pontetta de la ville, Matteo Brigante et Mariette. Voilà, résumé un peu rapidement le thème de ce roman.
Très bien, merci. Donc, est-ce que tu pourrais nous lire quelques passages de ce roman ?
Je vais essayer,
ouais.
En ne disant pas trop vite.
Oui.
Donc, je vais te lire des extraits. Donc, je vais te lire tout d'abord des extraits qui succinctement nous présentent le principe du jeu de la loi. Tonio pense que jouer à la loi est aussi plaisant que de faire l'amour à une femme qui ne veut pas, mais sur laquelle on a des droits.
C'était court. Hein.
Ce n'est pas court, il y a une suite.
C'est une petite introduction.
Ne m'interromps pas pendant ma lecture.
Excuse-moi. Non.
Tonio, homme de confiance de Don Cesare, fut admis sixième à la partie qui était en train de se monter sur l'initiative de Matteo Brigante, dans une taverne de la vieille ville. La loi peut se jouer à 5, à 6, à 7 et à plus. Mais 6 fait un bon nombre. À Porto Manacore, Matteo Brigante contrôle tout, y compris la loi. C'est un ancien maître de la marine un ancien quartier maître de la marine royale. Il impose à son contrôle dès son retour dans la ville natale en 1945 après la défaite. Il approche de la cinquantaine, mais il a gardé le style quartier maître. On s'attend toujours à le voir brusquement porter un cifer à sa bouche. une bouche mince sous une moustache étroite, noire et drue, les lèvres toujours serrées, même quand il rit, contrôlant tout, mais ne faisant rien. Il n'a jamais été condamné par les tribunaux, sauf bien avant la guerre, pour avoir à côté l'ado, en coutelé, un garçon qui avait ravi la virginité d'une de ses sœurs. C'est un crime qui lui fait honneur, un de ces crimes d'honneur pour lesquels les tribunaux du Sud ont toutes les indulgences. Il contrôle les pêcheurs en barque, les pêcheurs en trabuco et les pêcheurs à la dynamite. Il contrôle les vendeurs de citrons, les acheteurs de citrons et les voleurs de citrons. Il contrôle ceux qui se font voler dans les pressoirs à olives et ceux qui les volent. Il contrôle les contrebandiers qui s'en vont accoster au large des yachts chargés de cigarettes américaines et les douaniers qui rôdent le long de la côte sur leurs canots à moteur, allumant soudain un phare qui fouille toutes les anses ou ne s'allumant pas, si brigantés à négocier le prix de leur nonchalance. Il contrôle ceux qui font l'amour et ceux qui ne le font pas, les cocus et ceux qui les font cocus. Il donne des indications aux voleurs et des indications à la police, ce qui lui permet de contrôler les voleurs et la police. On le paie pour qu'il contrôle et on le paie pour qu'il ne contrôle pas. Il perçoit ainsi sa taxe sur toutes les opérations, commerciales ou non commerciales, qui s'effectuent sur le territoire de Porto Manacoré et des communes voisines. Matteo Brigante a tellement à contrôler qu'il a débauché Pisacio, le mitron de la pizzeria, et a pris à son service comme contrôleur en second.
Une question.
Oui.
Est-ce que le jeu de la loi se joue essentiellement dans le milieu de la mafia?
Ah non, c'est tous les gens du village qui jouent à ça.
Tous les gens.
Ah oui, c'est pas un jeu particulier à la mafia. C'est un jeu que les villageois jouent entre eux.
D'accord.
Voilà. Donc, 61. La loi prenait décidément bonne tournure. Sept parties déjà sans que les tarots aient désigné Tonio pour patron, et personne ne l'avait choisi pour sous-patron. Pour que la loi soit plaisante à jouer, il faut une victime clairement désignée, que le sort et les joueurs traquent jusqu'à l'épuisement. Ainsi seulement, ce jeu de pauvres devient aussi excitant que la chasse à cours ou la course de taureaux. Davantage même, la victime étant un homme.
C'est vicieux.
C'est vicieux, ouais. C'est très vicieux.
Choisir à l'avance.
Comment ?
Choisir à l'avance, désigner la victime.
Ah, mais c'est que la victime, elle est désignée au sort.
Ah, c'est un tirage au sort.
Ouais, il tire au sort, au tarot ou au dé, celui qui va être le patron du jeu, parce qu'un patron du jeu est un sous-patron. Et le patron et le sous-patron peuvent faire ce qu'ils veulent des adversaires, quoi.
D'accord.
Voilà. Donc, je vais te lire un autre extrait qui présente. Qui présente l'autre personnage principal du jeu qui s'appelle Don César.
Ils sont très beaux tes post-it.
Ah oui, mais ils ont fait la valise. où c'est ? 70. Quand Don César. Voilà. Donc c'est une partie du roman qui présente Don Cesare. Quand Don Cesare, brouillé avec le régime fasciste, donna sa démission d'officier en 1924, il avait 40 ans. Il entreprit d'écrire l'histoire d'Ouria, prospère cité grecque, colonie d'Athènes, édifiée au IIIe siècle avant Jésus-Christ, entre le lac et la mer, là où s'étend aujourd'hui le Marais. Déjà son père en rébellion contre les Bourbons de Naples, et son grand-oncle, archevêque de Benevente, tombé en disgrâce pour avoir tenu tête au terrible pape Annibale della Grenga, avait commencé à collectionner et à classer les antiques trouvées par les pêcheurs du marais et les laboureurs de l'oliveraie. Au début de sa retraite, Don Cesare vécut dans le palais familial à Calalunga, petite ville plantée sur la crête du plateau rocheux qui protège Porto Manacoré des vents de terre. Le père et le fils étaient monarchistes, libéraux dans la tradition franc-maçonne de la maison de Savoie. Le père se rallia assez rapidement au fascisme. Les deux hommes ne se parlèrent plus après la signature du Concordat. Pour Don Cesare, Mussolini, en transigeant avec le pape et le roi, en lui autorisant, avait trahi la grande œuvre de libération entreprise par Victor Emmanuel II, Garibaldi et Cavour. Il descendit dans la maison du Marais, amenant avec lui une partie des antiques. Il fait venir tout ce que l'on a écrit sur la colonisation grecque en Italie méridionale. Il avait fait des études sérieuses à Naples et lisait couramment le français et l'anglais. Il apprit l'allemand pour lire Munch et Todt, qui font autorité quant à l'époque helléniste. Pendant les premières années, il accumula énormément de notes. Il dressa le plan d'Oria. Le terre-plein de la maison à colonnade avait été l'emplacement de l'agora. La cité grecque était consacrée à Vénus. Le temple de la déesse s'élevait sur un mamelon rocheux à l'embouchure du déversoir du lac. Don Cesare entreprit des fouilles. Le lac avait été un grand port. Quand son père mourut, il continua d'habiter le marais, où il avait pris ses habitudes. Il pêchait, chassait et buvait avec les gens de sa maison. Il payait très bien les antiques qu'on lui ramenait. Les hommes feignaient de ne pas savoir qu'il faisait l'amour à leurs filles et à leurs sœurs. Lui, pour les faire venir à la maison, prenait toujours prétexte d'un travail. Lessive, couture, épluchage de maïs, séchage des figues, ainsi l'honneur des hommes était sauf. Quand la fille, la première nuit passée, lui plaisait encore, il l'engageait comme servante. On ne lui fit jamais de chantage. Parce qu'il est dans la tradition des seigneurs du marais d'Orient de témoigner de l'amitié aux filles et femmes de leur maison. Quand une fille ne lui plaisait plus, il la mariait. Il garda la Julia après l'avoir mariée, parce qu'elle cuisinait bien et parce que son mari prenait grand soin des antiques, chargé de l'entretien des collections. Il ne cassa pas une seule pièce en 10 ans. Ensuite, il la garda à cause de ses filles. Voilà, c'est Don Cesare.
Quel personnage ?
Oui, mais ce sont tous de drôles de personnages, parce que la matière obligante, c'est quelque chose aussi. Tous, leur but, c'est de pouvoir prendre la virginité des filles du village. Ou de coucher avec les femmes des autres personnages.
Alors, est-ce qu'ils prennent que la virginité ?
Non, pas que la virginité des jeunes filles et puis les femmes des autres.
Non, mais ce que je voulais dire, du coup, il y a beaucoup d'enfants derrière, parce que si...
Ah oui, Dieu, oui. Ça, ils n'en parlent pas dans le roman, si ça va faire augmenter la natalité du village. Mais en fait, le but suprême, c'est de prendre les femmes, quoi.
Okay.
Voilà. Donc, comme je t'ai présenté 3 personnages principaux, qui étaient Don César et Matteo Obligante et Mariette, je vais te lire un extrait qui présente Mariette. L'une des filles de la femme de Don Cesare. Et Don Cesare et Matteo Obligante, ils rêvent de prendre la virginité de Mariette. Donc voilà, Mariette. Quant à Mariette, formée depuis 4 ans déjà, belle fille, avec les seins pointus sous la blouse de toile, elle était perpétuellement obligée de se défendre des frôlements des hommes, de leurs attouchements, de l'obsession qu'il ne cachait pas de sa virginité. Tu vois, on y est.
Oui.
Même de Don Cesare, elle supprenait parfois sur elle le regard lourd, ni aigriard ni enflammé, mais qui l'enveloppait pesamment. Elle ne se révoltait pas à l'idée de devoir lui donner sa virginité, s'il l'exigeait, puisque telle était la loi du Sud, qu'elle avait été accoutumée à trouver naturelle. Si elle y pensait, cela lui arrivait rarement. Ce n'était pas comme à une échéance redoutable, plutôt comme à l'un de ces innombrables petits ennuis qu'il n'est pas toujours possible d'esquiver. On n'y peut rien, on passe tout de suite à autre chose. Voilà, le décor est planté un peu. Le but, c'est pour les femmes de préserver leur intégrité sexuelle et pour les hommes de coucher avec, quoi. Mais c'est même pas envie de faire l'amour qu'ils ont, c'est vraiment envie de coucher avec elle, entre parenthèses, de les baiser, quoi.
C'est la conquête perpétuelle.
Voilà, c'est affirmer la suprématie du mâle sur la femelle.
C'est même pas des polygames d'ailleurs, c'est juste pour
chasser. Ouais, juste le fait de coucher avec. Se dire, celle-là, je me la suis faite. En gros.
Oui, en gros.
J'ai pas dit un loin en travers. Hein. Donc. Mais dans cette histoire, il y a un autre personnage qui est un peu en fond d'histoire, c'est un personnage qui s'appelle Pipo, et c'est un gamin qui est le chef de bande de petits chapardeurs, de petits voleurs, et qui a pour ambition lui aussi de devenir
Seigneur.
un grand seigneur du lieu. Et Mariette, qui est ambitionnée par Don Cesare, par Brigante, par Tonio aussi, dont j'ai parlé il y a un petit moment, qui est le mari d'une de ses sœurs, Mariette, est amoureuse de Pipo, l'autre gamin. Donc là, je vais vous lire un passage où elle donne sa virginité à Pipo.
Et piano, piano.
Piano, piano. Musique de fond, alors. Mais voilà que ce soir, dans la resserre du jardin d'oranger et de citronnier, avec la perspective de toute une nuit à passer côte à côte sur les sacs de toile, dans la complicité exaltante du combat victorieux contre Matteo Brigante, ils commencèrent de s'embrasser. Oui, parce qu'il faut dire que Matteo Brigante a essayé de violer Mariette, qu'elle s'est défendue et qu'elle lui a, à l'aide d'un greffoir, elle lui a tracé une croix sur la joue. Il n'a pas pu la violer.
Et donc c'est chaud.
Ouais. Ah ben oui, non, mais c'est très intéressant ce bouquin. Aussitôt qu'ils eurent commencé de s'embrasser, la loi du Sud, les habitudes du Sud et tout ce que l'un et l'autre avaient préalablement pensé plus ou moins clairement de l'amour et des choses de l'amour furent totalement oubliées. Totalement oubliées. La religion n'ayant jamais été pour eux qu'une superstition parmi les autres, il ne leur vint pas à l'esprit qu'ils commettaient le péché. Les morales qui n'ont pas de base doctrinale se défendent d'un seul coup. Ils se retrouvèrent exactement semblables aux pâtres des collines voisines de la prospère cité d'Ouria. Ils ne pensèrent plus qu'à mêler leur souffle, à se toucher toutes les parties du corps, à se presser l'un contre l'autre, à s'enflammer l'un à l'autre, à chercher dans son excès même l'apaisement de leur embrasement. Mariette perdit sa virginité sans même s'en apercevoir, comme il arrive le plus souvent aux jeunes filles rompues aux exercices violents. Ils n'eurent aucune espèce de remords, c'est le sentiment qui aurait le plus étranger. Du crépuscule jusqu'à l'aube, ils ne firent que se prendre, se déprendre et se reprendre avec un plaisir toujours croissant. Ils ne prononcèrent pas un mot, seulement les balbutiements, les exclamations et les soupirs de l'amour. Lorsque l'un était là, l'autre leur animait. C'était l'affaire d'un instant. À l'aube, ils s'endormirent sur les sacs de toile, les jambes entrelacées, les mains unies et leur cœur battant d'un même rythme.
Et leur cœur battant ?
D'un même rythme. Ah. À l'unisson.
Oui. Merci.
Voilà.
Qu'est-ce qui t'a amené à lire ce roman ?
J'ai été amené à lire ce roman parce que bon, j'avais déjà lu d'autres romans de Roger Vaillant, qui est un auteur qu'on ne lit pas beaucoup aujourd'hui. Et puis comme j'ai lu une grande majorité de tous les prix Goncourt depuis 1900, je me suis dit la loi prix Goncourt, je vais le lire. Voilà. Et c'est un roman qui est un peu particulier dans l'œuvre de Vaillant, parce que la plupart de ces romans ont un fond politique. Mmh. Roger Vaillant, c'était un écrivain communiste qui avait adhéré au Parti communiste. C'était un ancien résistant. Donc dans ses écrits, il exprimait un peu ses idées politiques et sa vision d'un monde à venir auquel il croyait beaucoup matérialiste.
Ce qui n'est pas le cas dans ce roman.
Et non. Et il s'est aperçu juste avant de mourir qu'il ne verrait pas de son vivant la réalisation de ses rêves.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Il y a un autre roman de Roger Vaillant qui est très très beau, qui s'appelle 325 000 francs. Voilà. Qui est peut-être pas mieux que la loi, parce que la loi c'est vraiment... C'est un... à part, oui, dans son œuvre. Les autres sont plus politisés. 325 000 francs, c'est l'histoire d'un ouvrier qui emprunte 325 000 francs parce qu'il a eu un accident du travail Il a besoin de ses sous, il les emprunte, et après, toute l'histoire du roman, c'est qu'il tient absolument à rembourser cet argent qu'il a emprunté.
D'accord. Pour revenir à la loi,
Oui.
quel est le message qu'il a voulu faire passer? Sans dévoiler, bien sûr.
Mais ça, c'est surtout qu'il a voulu décrire cette Italie méridionale très arriérée, qui était en dehors du reste de la péninsule, quoi, qui n'avait pas droit au progrès technique, aux avancées technologiques, et nous montrer un peu cette vie arrêtée très tôt dans l'histoire, quoi.
Est-ce que tu crois qu'il a voulu faire une comparaison avec...
Non, puis en plus, c'est que c'est un sujet que le libertinage, Roger Vaillant, c'était un libertin. Il a eu beaucoup d'aventures avec des femmes, même en étant marié avec d'autres femmes. C'est un mec, bon, il est mort jeune parce qu'il fumait, il buvait, il couchait avec toutes les nanas qu'il croisait. Donc c'est un peu son histoire, quoi, ça.
D'accord.
C'était un grand libertin, Roger Vaillant.
Ok.
Voilà.
Ben, merci.
De rien.
Est-ce que tu as
Bon, si tu veux,
un petit mot de fin?
je peux te lire la fin.
Comment ça, à la fin?
Je peux te dire la fin de Don César et la
Ah
mort de Don
oui.
César.
Oui.
Je peux te lire. Parce que Don César n'a pas pu avoir donc la virginité de Mariette. Si je trouve.
Nous sommes en direct.
Nous sommes en direct depuis le vestibule. Voilà, donc ce sont les derniers instants de Don César qui est en compagnie de Mariette.
Et piano.
Piano, Vassano. Mariette, commença-t-il. Elle tourna la tête vers lui. Mariette, continua-t-il, je te veux tellement de bien. Il voulut de nouveau prononcer le nom de la jeune fille, mais dans le même instant, sa gorge et sa bouche se nouèrent. Il fit un grand effort pour rompre ce nœud qui liait sa gorge et sa bouche. Oui, parce qu'il finit paralysé, le pauvre Don César. Mais les muscles maxillaires n'obéissaient plus. Il pensa que l'effort devait contracter ses traits, car Mariette le regardait avec épouvante. Elle s'était dressée, projetée vers lui, criant « Don César, Don César !» Il cessa tout effort et s'obligea à sourire des yeux. Il eut l'impression qu'il y réussissait. Les muscles des paupières, l'inférieure et la supérieure, obéissaient encore. Le regard de Mariette s'apaisa, mais elle continuait de crier « Don César, Don César !» Le bras gauche et la main gauche continuaient d'obéir. Il porta le doigt aux lèvres pour faire signe à la jeune fille de se taire. Elle se tut. Il lui fit signe de s'allonger sur le lit près de lui. Elle s'allongea près de lui, sur les draps frais, aux plis encore raides. Elle le regardait avec un regard exalté. Il pensa que dans cet instant, elle l'aimait d'une sorte d'amour qui valait bien toutes les autres. Il posa la main sur le sein de la jeune fille, sur la blouse de toile. Mariette souleva la main de Don César, défit rapidement la blouse, qui se déboutonne par devant, puis reposa la main sur son sein nu. Le sein était petit, rond et dur, et la large main seigneuriale l'enveloppa tout entier. Les femmes de la maison attendaient dans le couloir. Elles n'osaient pas entrer, Don César ayant dit la veille au soir qu'elles ne devaient venir que sur l'ordre de Mariette. Elles avaient entendu les appels de la jeune fille. Don César, Don César. Elles étaient surprises de ne plus rien entendre. Un long temps s'écoula. Mariette regardait avec exaltation Don César
C'est
qui la
bon,
regardait.
non, c'est bon.
Oui,
On
c'est
va
presque fini.
laisser le suspense.
Ah, ok.
Ah oui.
On laisse le suspense.
Ah ouais.
Bon, je m'interromps.
Maintenant.
Oui.
Jusqu'à la prochaine fois où tu auras la parole pour présenter un.
Ben oui, puisque comme tu me l'as proposé, comme je t'ai dit, j'ai lu quasiment tous les Goncourt depuis 1900, je crois que le premier que j'ai, c'est 1905, c'est Claude Farrère. Et j'ai, donc, comme tu me l'as proposé, je suis d'accord pour vous présenter cette somme de prix Goncourt. Voilà.
Eh bien, nous confirmons.
Bien, merci.
Merci, Pedro.
Merci à toi, Lionel.
À bientôt.
À bientôt.